Accident mortel de la circulation hier soir au Mont-d'Or. Il a été causé par un conducteur alcoolisé qui s'en est aussi pris aux gendarmes. Mobilisation des salariés de la NMC à Népouy, Waco et Nakheti. Ils s'inquiètent d'une cessation de paiement imminente. Période météo perturbée avec des dépressions annoncées. Il faut s'y préparer, notamment en effectuant l'élagage de ces arbres et de ces haies. Juliette Collet, de retour sur le territoire. Un petit comité d'accueil attendait la première Dauphine Miss France 2026 ce matin à Tontoutard. En métropole, semaine à haut risque pour le Premier ministre, sous le coup de deux motions de censure, il brandit la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis en Iran, la répression monte encore d'un cran contre les manifestants. Les gardiens de la révolution auraient ouvert le feu. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se poursuivra par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Nous y parlerons notamment football, c'était en effet ce week-end et ça continue, les 16e de finale de la Coupe de France.
Et Lens qui garde la cadence, le leader du championnat de France jouera bien les 8e de finale après sa victoire tranquille sur Sochaux 3-0. Lyon a réussi pour sa part à éliminer un sérieux client, Lille de Buzyn, pour continuer l'aventure. La logique a globalement été respectée ce week-end, il n'y a plus beaucoup de petits poussés en lice, seulement Bayeux de Régional 1 qui a rendez-vous avec l'Olympique de Marseille mercredi. Et en attendant, dès demain matin, on aura droit au derby parisien entre le PSG et le Paris FC.
Sur le territoire, on a clos une belle quinzaine de tennis avec la finale samedi du BNC Open de tennis et une victoire d'un Français.
Oui, la fin de la grande quinzaine pour la petite balle jaune. Le BNC Catherine Bonnet et le BNC Tennis Open qui s'est achevé sur la victoire d'Arthur Géa. Le Français avait conquis le public en battant des joueurs à chaque fois mieux classés que lui. Et les fans ont largement participer au succès de ce rendez-vous avec de nombreux spectateurs pour venir assister à de belles affiches et même braver la pluie le soir de la finale sur les courts du Wentoro.
Et puis c'est la saison avec notre invité, nous parlerons sport de plein air.
Oui, avec un air de samba attendu sur Lens Vata, Foot NC proposera une nouvelle journée autour du foot volley et sur la thématique du Brésil samedi prochain. Une action sportive et culturelle, des tournois et des animations. Nous en parlerons avec Bastien Antoine, l'organisateur de cet événement.
Et on se retrouve donc pour le magazine des sports dès la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, un accident de la circulation a fait un mort hier soir vers 21h30 au Mont-d'Or, dans le secteur de la Coulée. Un véhicule a effectué une sortie de route et il a terminé sa course dans le fossé sur le toit. La passagère, l'épouse du conducteur, est décédée sur le coup. Il s'agit déjà du deuxième décès sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. L'homme, quant à lui, présentait un taux d'alcoolémie élevé et il s'est montré violent envers les gendarmes qui intervenaient sur place. Il leur a asséné plusieurs coups de poing. Outre l'effet de conduite sous l'emprise de l'alcool et d'accident mortel, le conducteur sera également poursuivi pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les délégations politiques calédoniennes ont rendez-vous à Paris à la fin de la semaine. Elles ont été conviées par le président de la République pour un temps d'échange pour poursuivre le dialogue avec l'ensemble des partenaires afin d'apporter des clarifications à l'accord de Bougival signé en juillet dernier. Cette rencontre prévue à Paris vendredi en fin de journée devrait être suivie par 3 jours de travail en atelier rue Oudinot. Notez que le FLNKS fera demain après-midi à 14h un point sur la convention du front qui s'est tenue vendredi à Dumbéa. Le FLNKS évoquera à cette occasion, je cite, l'invitation du 16 janvier prochain à Paris. Et puis au chapitre social, Mickaël, une mobilisation aux abords des sites de la NMC depuis ce matin.
Les salariés, mais aussi des sous-traitants de la Nickel Mining Company veulent alerter la population sur la situation critique de la NMC. L'opérateur minier pourrait se trouver en cessation de paiement au 20 janvier prochain. Plus de 600 salariés pourraient perdre leur emploi. Les représentants du mouvement ont déjà eu l'occasion de demander l'aide de l'État. Depuis ce matin, sur la RT1, au niveau du site de la NMC à Poya, des camions et des engins miniers se sont postés aux abords de la route. La circulation n'est pas arrêtée, mais fortement ralentie. Les leaders du mouvement doivent faire le point cet après-midi sur cette action. Des tracts, en attendant, sont distribués aux automobilistes. On peut notamment y lire « L'État français doit prendre ses responsabilités. L'aide de l'État n'est pas un privilège, c'est une nécessité. » Des mobilisations se déroulent également sur les autres sites de la NMC, à Népouy, à Waco et à Nakheti. La situation est urgente, selon les salariés de la Nickel Mining Company, avec de nouvelles conséquences néfastes pour la province Nord en cas d'arrêt des activités.
La Nouvelle-Calédonie sous la menace d'un cyclone en fin de semaine. Difficile encore de savoir s'il touchera ou non le territoire et si oui, avec quelle intensité. Les météorologues restent en effet très réservés encore sur l'évolution du phénomène. Mais une chose est sûre, dans cette saison cyclonique, la vigilance est de mise et la préparation s'impose, Léana Colombo.
Et oui, mieux vaut prévenir que réparer. C'est ce que tout le monde s'accorde à dire durant la période cyclonique et les Calédoniens l'ont bien compris. Parmi les gestes simples mais cruciaux à réaliser avant l'arrivée d'un cyclone, il y a l'élagage, feuillage. L'entretien des arbres autour des maisons peut éviter bien des dégâts. Audrey possède une entreprise d'entretien de jardin à Nouméa. Depuis l'annonce de ce potentiel cyclone, son agenda s'est considérablement rempli.
C'est chaque année pareil, parce que la saison cyclonique commence du mois d'octobre jusqu'à avril. Et c'est souvent vers cette période, au mois de janvier, que les premières dépressions et cyclones arrivent. Et là, tout le monde appelle en dernière minute, en urgence. Les demandes, c'est surtout pour purger les cocotiers. On va enlever les premières, deuxièmes couronnes de feuilles sur les cocotiers, ainsi que toutes les cocos. Comme ça, les cocotiers ont moins de portance au vent, ce qui limite le risque de déracinement. Puis ça peut être d'autres arbres aussi qui sont près des habitations, qui sont proches des lignes électriques, proches des lignes OPT. Et donc nous recevons beaucoup de demandes concernant ce site d'arbres.
Ce matin, dans le quartier de Green Valley, Aldo a fait appel à l'entreprise Jardinicle pour faire élaguer un banyan situé en bordure de sa propriété, tout près de la route. Une précaution de plus pour limiter les risques.
C'est nécessaire, il y a un arbre qui est énorme, qui empiète quand même sur la voie publique. Donc de toute façon, vu la période cyclonique, je pense qu'il est nécessaire de prévoir un élagage pour éviter les soucis voisins ou même en cas de cyclone. Ça peut nous inquiéter, on n'a jamais idée de la force. Donc les branches qui cassent et tout, oui, ça nous inquiète. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Jusque-là, on a eu de la chance, pas de soucis. Vraiment rien de méchant, mais il faut toujours voir plus loin.
Autre point essentiel de la préparation, l'électricité. Quand un cyclone approche, les installations électriques deviennent particulièrement vulnérables et les accidents peuvent vite arriver si l'on n'adopte pas les bons réflexes. En matière d'électricité, la règle est simple, anticiper, couper et vérifier. Des conseils rappelés par Laure Leroy, directrice des opérations d'EEC.
C'est s'organiser en préparation de coupure d'électricité. Donc prévoir tout ce qu'il faut, des petites lampes sur pile, batteries, des bougies, etc. en cas de coupure, de l'eau. Et puis prévoir comment sortir de chez soi en cas de coupure. Donc savoir débrayer son portail électrique, pour savoir sortir si besoin. Ensuite, à l'approche réellement du cyclone, c'est important de fermer tôt ses volets roulants au cas où il y aurait une coupure d'électricité pour pas se retrouver au contraire avec des fenêtres ouvertes à l'arrivée du cyclone. Débrancher les appareils électriques sensibles dont on n'aurait pas besoin. Et puis rester en sécurité pendant le passage du cyclone chez soi et rester en sécurité jusqu'à la fin de la phase de sauvegarde parce que c'est la phase où là, nous, on intervient pour dégager les câbles qui pourraient être à terre. Et ça, c'est un rappel important de sécurité en cas de câble à terre. Surtout, ne pas intervenir, ne pas s'approcher et appeler EEC au 05 36 36 pour que nous, on intervienne en toute sécurité.
Selon le dernier bulletin d'activité cyclonique de Météo France Nouvelle-Calédonie, il est encore trop tôt pour déterminer l'intensité et la trajectoire de la dépression en formation, mais la situation est à surveiller de très près.
Radio Rythme Bleu, 11h38.
L'activité du COSNC a augmenté en 2025. Le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie a coordonné 360 opérations en 2025 contre 315 environ en 2023 et 2024. Nicolas Olivero, le nouveau directeur du COSNC, était ce matin notre invité à 7h30.
On a une augmentation du nombre d'opérations, notamment sur le volume d'opérations de sauvetage. Ça s'explique de plusieurs façons. Hein. Ça peut être lié aux conditions météo qui éventuellement auraient pu mettre en difficulté plus fréquemment les navigants. Mais on peut aussi penser que c'est parce que le centre est informé plus régulièrement des difficultés. Je rappelle qu'on peut contacter le COS par VHF Marine sur le canal 16 ou par téléphone également hein, sur le numéro 16 qui est un numéro gratuit. Et donc effectivement, les gens ont pris l'habitude maintenant de contacter le COS, ce qui peut expliquer une augmentation du nombre d'opérations connues par le centre. On sait que les opérations qui se terminent mal sont en principe celles pour lesquelles le COS a été informé un petit peu tard et n'a pas pu déclencher rapidement les moyens d'intervention. Donc effectivement, le bon réflexe, c'est de contacter le COS en cas de difficulté le plus rapidement possible.
Et en cette période de forte affluence en mer, Nicolas Olivero rappelle les consignes de sécurité.
Il y a un certain nombre de choses à prévoir, c'est-à-dire de vérifier que la météo va être favorable, de vérifier que son matériel est en bon état, qu'on a le matériel de sécurité à bord. Quand on part, effectivement, avoir de l'eau, de la nourriture, une protection solaire. Il est plus prudent d'avoir au moins deux personnes capables de manœuvrer le navire, d'avoir un téléphone chargé et une VHF marine sur le canal 16 qui soit allumée. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, une VHF allumée, ça veut dire qu'on peut rapidement donner l'alerte en cas de problème, mais on peut aussi également avoir connaissance d'une difficulté rencontrée par un navire à proximité et éventuellement pouvoir lui porter assistance. Effectivement, il y a des zones blanches, donc le SMS peut passer de manière plus facile. Il y a également des dispositifs de balises de détresse qui sont capables d'émettre une détresse, quel que soit l'endroit où on est. Évidemment, on n'a pas d'échange. En tout cas, le COS pourra avoir connaissance d'une difficulté d'un navire à un endroit donné et, le cas échéant, envoyer des moyens d'intervention.
Et avec les conditions météo, on l'a vu, qui risquent de se dégrader dans les prochains jours, il est demandé aux usagers de la mer de rester informés et de suivre les consignes des autorités.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Comprenez-vous l'évolution du dispositif de sécurisation de la gendarmerie au niveau des verrous de Saint-Louis ? Si vous comprenez ces modifications, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Dans un instant, après une pause, nous retrouvons Juliette Collet, la Miss Nouvelle-Calédonie qui rentre tout auréolée de son titre de première dauphine de Miss France. Elle s'est posée ce matin à Tontouta.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre tranquillité d'esprit, avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Juliette Collet est donc de retour sur le territoire. Après 2 mois en métropole, la Miss Nouvelle-Calédonie et première dauphine Miss France 2026 a été cueillie à Tontouta ce matin, Charlotte Coulson.
C'est le 6 décembre que la France a découvert le nom de Juliette Collet. Elle se tenait face à Ina Pocodevez sur la scène du Zénith d'Amiens. Après des secondes interminables, Miss Tahiti est finalement couronnée Miss France 2026. Des larmes de joie pour les deux candidates qui ont représenté fièrement les Outre-mer. Juliette Collet repart sans regret avec l'écharpe de première dauphine et la satisfaction d'avoir conquis le jury et une partie des téléspectateurs. Après l'élection, Juliette Collet a mis la couronne de côté pour se consacrer à sa famille. Aujourd'hui, de retour en Calédonie, le souvenir de cette soirée reste vif pour la jeune Calédonienne de 23 ans.
Je suis ravie, je suis honorée et je suis fière de rentrer au pays après toute cette aventure. Ça m'a vraiment plu. J'avais jamais performé sur une scène en telle ampleur. Et en plus avec 30 autres femmes aussi déterminées les unes que les autres et sur des musiques. Je pense que c'est le rêve. On le fait toutes dans notre chambre, en cachette, dans notre salle de bain. Là, c'était l'occasion de le faire sur une vraie scène avec des étincelles, des projecteurs, de la fumée, de la musique. C'était génial. J'ai adoré. Et donc, me voilà rentrée au pays. Donc, une vraie fierté.
Et à peine sortie de l'avion ce matin, la Miss Nouvelle-Calédonie est recouverte de colliers de fleurs, de ses amis du comité Miss NC et de quelques admirateurs qui ont suivi son parcours et voulaient à tout prix la rencontrer à l'aéroport.
Donc on est venu pour accueillir notre Miss Juliette Collet. J'ai suivi son parcours en Calédonie et ensuite en métropole. Ça fait plaisir déjà et puis surtout son parcours, elle a été très loin et c'est une jeune femme du pays qui représente bien le pays. Elle est très cultivée et elle est très belle surtout.
C'est pour ça que vous avez voulu être là pour son arrivée ?
Oui bien sûr et aussi je voulais emmener ma fille pour qu'elle puisse la voir arriver.
T'as pris quoi avec toi là ? C'est quoi que t'as autour du cou ?
Mon écharpe que j'ai gagnée à mon élection et ma couronne que je l'ai pas encore enfilée et un cadeau pour.
Pour la Miss ?
Oui.
C'est quoi ton cadeau ?
C'est le collier.
T'as hâte de l'avoir ?
Oui.
Et ce qui est sûr, c'est que sa prestation sur la scène de Miss France a aussi fait du bien au comité Miss Nouvelle-Calédonie, comme l'explique sa présidente Stella Levanao.
On est très très fiers. Il n'y a pas que le comité, je pense que l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie est fier du brillant parcours de Juliette Collet. Elle a séduit la métropole aussi, et ça c'est important. Vous connaissez le contexte actuel, qui est très difficile. Malgré tout, même si nous avons divisé par 2 notre budget, pour nous c'est important d'avoir une ambassadrice qui représente le territoire calédonien. Et je pense qu'elle le représente très très bien. Elle a dépassé les frontières calédoniennes, elle est aujourd'hui au niveau national et nous espérons, donc on attend des nouvelles effectivement de la société Miss France, nous espérons qu'elle puisse aussi peut-être participer à une élection internationale. On verra.
Et maintenant de retour, Juliette Collet va multiplier les rencontres avec les personnalités et le public calédonien. Un grand événement devrait être organisé dans les prochaines semaines sur Nouméa.
Et Juliette Collet sera dans nos plateaux demain midi dans un magazine citoyen dans lequel nous reviendrons sur cette aventure qu'elle avait vécue avec le comité Miss France. Juliette Collet invitée demain du magazine citoyen en compagnie d'autres personnes qui ont partagé avec elle cette aventure. L'actualité dans la région et la situation reste compliquée en Australie, dans le North Queensland d'abord. L'ex-cyclone Kodji continue de s'enfoncer dans les terres. Il a certes perdu en intensité, mais continue de causer des dégâts sur des endroits déjà inondés. Plus au sud, dans le Victoria, ce sont les incendies qui sévissent. Ils ont d'ailleurs fait une première victime, la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La police du Victoria a confirmé la mort d'un homme qui a été trouvé à une centaine de mètres de sa voiture abandonnée. L'identité de la victime et les circonstances de son décès n'ont toutefois pas encore été révélées. La tragédie s'est produite dans une région boisée qui a été dévastée par les incendies de ces derniers jours. Selon les dernières estimations en date, près de 450 000 hectares de végétation, de même qu'environ 350 maisons et hangars, ont déjà été détruits. Les pertes au niveau du cheptel risquent d'être considérables. Dans le nord Queensland, l'ex-cyclone Kodji n'est plus aujourd'hui qu'une dépression tropicale qui s'enfonce lentement dans les terres plus que détrempées par les pluies torrentielles de ces deux dernières semaines. Preuve de l'intensité du système, certaines régions qui se trouvaient sur son passage ont reçu 330 mm de pluie en 6 heures. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Sébastien Lecornu sous la menace de deux motions de censure. Une semaine politique qui s'annonce tendue en métropole. On en parle juste après la pause dans une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Jean-François Baudin.
Et semaine politique à haut risque pour Sébastien Lecornu, qui une fois de plus va jouer sa survie à Matignon. C'est mardi que les débats doivent reprendre à l'Assemblée nationale pour tenter de trouver un compromis sur le projet de loi de finances. Le tout alors que deux motions de censure ont été déposées, l'une par le Rassemblement national, l'autre par la France insoumise. Elles concernent la préparation de ce projet de loi de finances, mais aussi le Mercosur et l'incapacité de la France à peser sur ce dossier. Dans ce contexte, Sébastien Lecornu brandit la menace d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Une hypothèse à laquelle ne croit pas le député Rassemblement national, Sébastien Chenu.
Elle est un peu un coup de bluff de leur côté, parce qu'en fait, ils sont terrorisés à l'idée que les motions de censure puissent passer, que ce soit sur le budget ou sur le Mercosur. Donc, ils agitent cette menace de dissolution pour dire aux socialistes et aux républicains, attention, vous allez retourner aux urnes si vous ne votez pas sagement, si vous ne baissez pas la tête.
Et les LR menacent de voter les motions de censure également si le projet de loi de finances ne prend pas en compte ces propositions. Même menace aussi du côté des socialistes, explique le député Romain Eskenazi.
Si jamais c'est le budget actuel tel qu'il est sorti du Sénat avant les nouveaux débats à l'Assemblée qui est présenté à l'Assemblée nationale avec un 49-3, on censurera le gouvernement.
Et à propos du Mercosur, cet accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et ceux d'Amérique latine, il sera bien signé samedi prochain. C'est confirmé désormais par la Commission européenne. Une signature qui entretient la colère des agriculteurs qui ne baissent pas les bras et organisent chaque jour des manifestations, notamment dans le sud-ouest. Certains syndicats annoncent une mobilisation dans le temps. Le contexte social difficile, c'est aussi celui du monde de la santé. Les médecins libéraux sont en grève pour 10 jours. Certains ont manifesté samedi pour nous à Paris pour dénoncer la politique de santé du gouvernement. Et pour marquer le coup, 2000 spécialistes libéraux, obstétriciens, chirurgiens ou encore anesthésistes, ont décidé de s'exiler symboliquement toute la semaine à Bruxelles. Mathis Lang pour Europe 1.
À la mi-journée, ces professionnels de santé ont embarqué à bord d'une trentaine de cars. Le syndicat qui organise cette mobilisation, Avenir Spé Le Bloc, parle d'un exil symbolique. Sylvie Filet-Bernard se trouve justement dans l'un de ces bus actuellement. Elle est secrétaire générale du syndicat des anesthésistes libéraux.
Le symbole, c'est d'organiser la pénurie de la médecine libérale. Et c'est pour montrer au gouvernement que demain, s'il n'y a plus d'offre de soins libérale, le paysage de l'offre de soins ne sera plus le même.
Conséquence, l'ensemble des blocs opératoires est impacté. La Fédération de l'hospitalisation privée parle de 100 000 interventions déprogrammées sur les 3 jours de mobilisation, c'est-à-dire jusqu'à jeudi. Malgré tout, la continuité des soins reste assurée.
Même en grève, nous avons assuré la poursuite de la prise en charge des patients que nous avions pris en charge la semaine dernière. Donc, on a assuré en interne une continuité des soins. S'il y avait des patients encore à prendre en charge, tous les praticiens ne sont pas partis.
Le retour des médecins en France est donc prévu en fin de semaine. Leur volonté, rencontrer le Premier ministre Sébastien Lecornu pour faire valoir leurs revendications.
Et puis encore un mot de l'actualité en métropole avec ce week-end particulièrement meurtrier dans les Alpes. 6 skieurs hors piste sont morts après avoir été emportés par une avalanche dans plusieurs accidents séparés. L'actualité à l'étranger maintenant et en Iran, la contestation ne faiblit pas. La répression semble en revanche s'accentuer. Le président iranien Massoud Pezeshkian a même pris la parole pour mettre en garde les manifestants. Wilfried de Villers.
Une mise en garde, lui, qui jusqu'à maintenant entretenait un certain flou, prenant en considération les revendications des manifestants, se disant à l'écoute de leurs préoccupations. L'heure est désormais à la fermeté.
Nous demandons que dans chaque quartier, les habitants se rassemblent et n'autorisent pas ces personnes à provoquer des émeutes. Notre devoir le plus élevé est de ne pas permettre aux émeutiers de venir semer le trouble dans la société.
Une réponse aux appels à prendre les centres-villes lancés hier par le prince Reza Pahlavi en Iran. Eh bien, les informations arrivent toujours au compte-gouttes alors qu'Internet est coupé dans tout le pays depuis 3 jours maintenant. Les témoignages qui nous parviennent semblent confirmer une répression sanglante à l'abri des regards de la communauté internationale, en particulier dans les régions périphériques. Dans les zones kurdes et balouches, les gardiens de la révolution auraient tiré à l'arme lourde sur les manifestants. Des hôpitaux saturés où affluent les blessés, notamment à Téhéran, à Shiraz, des corps sans vie recouverts d'un simple drap et des manifestants qui se prennent en photo avec des douilles de balles vides dans les mains. C'est aussi les témoignages que relaie Iran Wire, média indépendant basé à Londres. Le bilan est lourd, au moins 200 morts en 2 semaines de contestation selon l'ONG Iran Human Rights. Elle avançait une 50aine de victimes il y a encore 3 jours. Pour tenter de reprendre la main, le gouvernement iranien appelle aussi à de grandes manifestations en soutien au régime. Demain, il décrète également 3 jours de deuil national pour les membres des forces de sécurité tués dans les manifestations.